but you'll never survive. No, today you are up, yeah, and tomorrow you're down. Today for you and tomorrow for me. Yeah. So what's the use in pretending to your brother?
Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, une heure de plus ici à Paris.
RFI midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une, la France ne demande finalement pas la démission de Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens taxée d'antisémitisme après des propos concernant la guerre menée par Israël à Gaza. Les détails dans un instant. À Genève, nouveau chapitre de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Cette troisième session de pourparlers indirect en Suisse a pour objectif de sortir du flou actuel, ni guerre ni paix, selon les mots du président iranien. Ces nouvelles discussions porteront uniquement sur le volet nucléaire, d'après un porte-parole de Téhéran. Pour parler prévu aussi à Genève entre les émissaires américains et ukrainiens, tandis qu'en Ukraine, la Russie a lancé cette nuit plus de 400 drones et 40 missiles, faisant des dizaines de blessés. Et puis l'affaire Jeffrey Epstein embarrasse encore l'administration Trump. Médias américains et élus démocrates accusent le ministère de la Justice d'avoir caché des documents concernant le président américain. On en parle dans un instant.
RFI Midi.
La France exigeait la démission de Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, accusée, selon le gouvernement français, d'antisémitisme après des propos concernant la guerre menée par Israël à Gaza. C'était faux et finalement, Paris ne demande pas son départ.
Lors d'une réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU hier, la représentante française Céline Jurgensen s'est contentée de critiquer, je cite, les déclarations extrêmement problématiques de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés. Il faut dire, Abla Jounaïdi, que la juriste italienne avait peu de chances de se voir poussée vers la sortie.
Au lendemain de la polémique lancée par des députés français attribuant faussement à Francesca Albanese des propos sur Israël, le Conseil des droits de l'homme avait condamné ce qu'il qualifiait d'attaque vicieuse contre la rapporteuse. Il avait aussi dénoncé, je cite, « les actions de ministres de certains États qui s'appuient sur des faits inventés et critiquent Madame Albanese pour des déclarations qu'elle n'a jamais faites ». Fin de citation. Des soutiens étaient également venus de juristes et de diplomates. Est-ce pour cela que la France n'a pas demandé finalement la destitution de la rapporteuse au Conseil des droits de l'homme? Le Quai Orsay n'a pas répondu immédiatement à RFI sur ce point. Quoi qu'il en soit, les mécanismes du Conseil sont construits de manière à protéger l'instance et ses experts contre les pressions extérieures. Et des pressions, la juriste en subit immensément depuis sa nomination en 2022, au gré de ses dénonciations des crimes commis par Israël à Gaza et en Cisjordanie occupée. Les deux seules fois où un État a saisi le Conseil pour révoquer le mandat de la rapporteuse, c'était par Israël et par l'Argentine, l'instance n'avait pas donné suite. Quant à Francesca Albanese elle-même, elle s'est toujours refusé à démissionner.
Les précisions d'Abla Jounaïdi, journaliste au service international de RFI.
Et on reparlera donc de cette position de la France dans quelques minutes, un quart d'heure maintenant, avec notre invité Yoann Soufi, avocat spécialisé en droit pénal international et ancien directeur juridique de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Un nouveau chapitre de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Des discussions ont repris ce matin à Genève avec comme objectif sortir du flou actuel, ni guerre ni paix, selon les mots du président iranien.
Et ces nouvelles discussions porteront uniquement sur le volet nucléaire, a déclaré il y a quelques heures le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Washington souhaitant de son côté également aborder le dossier balistique. Et le principal responsable du dossier sécuritaire en Iran, Ali Larijani, ne sera pas présent. Il joue cependant un rôle clé en coulisses. Il est devenu chef du Conseil suprême de sécurité nationale à la fin de la guerre des 12 jours, il y a un an, face aux États-Unis et à Israël. Ali Larijani s'est imposé comme l'un des bras droits du guide suprême Ali Khamenei ces derniers mois. Une véritable courroie de transmission, d'après Kevan Gafaiti, enseignant à Sciences Po Paris et président de l'Institut des relations internationales et de géopolitique.
Dans toutes les grandes discussions que nous voyons entre les Iraniens et les Américains, vous voyez Lori Johnny qui est absolument intégré dans ça. Il va se rendre à Oman pour transmettre des lettres. Il va absolument échanger de manière indirecte avec les Américains et donc transmettre les lettres de qui ? Mais vous l'avez deviné. D'Ali Khomeini. Il faut d'emblée voir que le président n'est pas du tout l'autorité principale dans l'architecture du pouvoir iranien, puisque c'est Khomeini, on le sait bien. Mais ensuite, il y a des personnes qui sont tout aussi importantes, voire plus importantes. C'était typiquement le cas de Qassem Soleimani, qui avait, sur la fin du mandat de Rouhani, bien plus de pouvoir que le président Rouhani. Et donc là, vous avez un président qui est ouvertement en désaccord avec Khomeini sur certains points, et donc Khomeini va tout simplement beaucoup plus s'appuyer sur d'autres figures. Lori Johnny pèse plus dans les institutions iraniennes, je dirais, dans les coulisses, mais ensuite aussi auprès du guide suprême, que le président actuel, Massoud Pezeshkian.
Kevan Gefaïti, enseignant à Sciences Po Paris et président de l'Institut des Relations Internationales et de Géopolitique. Et en parallèle de ces pourparlers à Genève entre Washington et Téhéran, la justice française doit rendre aujourd'hui sa décision dans le procès pour apologie du terrorisme de l'iranienne Mahdieh Esfandiari. Elle constitue une possible monnaie d'échange avec Téhéran contre les deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, assignés à l'ambassade de France en Iran. 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, avaient été requis contre Mahdieh Esfandiari lors de l'audience du 16 janvier dernier, assorti d'une interdiction définitive du territoire français. L'issue de ce procès est attendue avec fébrilité par les proches des deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris.
Ces discussions entre les États-Unis et l'Iran sont menées côté américain par l'émissaire Steve Witkoff et le gendre du président Jared Kushner. Tous les deux doivent aussi mener aujourd'hui des pourparlers avec l'Ukraine.
Moscou n'a aucune échéance pour mettre fin au conflit, a déclaré pour sa part le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avant cette nouvelle réunion sur l'Ukraine. L'Ukraine où la guerre se poursuit depuis 4 ans maintenant. Cette nuit, la Russie a lancé plus de 400 drones et 40 missiles, faisant des dizaines de blessés et des destructions dans 8 régions, a annoncé ce matin le président Volodymyr Zelensky. Des explosions ont retenti dans la capitale et dans d'autres grandes villes du pays. Les précisions de notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz.
À Kiev, les attaques ont commencé à 4h du matin avec une série d'explosions. Des incendies se sont déclarés dans plusieurs quartiers de la capitale. On ne dénombre pas de blessés ici, mais ces frappes ont fait des victimes ailleurs dans le pays. 16 blessés, dont 2 enfants après des frappes sur un immeuble résidentiel à Kharkiv. 2 autres personnes blessées à Kriviri, encore une fois suite à une frappe sur un immeuble d'habitation. Et 7 blessés à Zaporijia. À travers le pays, ce qui reste des infrastructures énergétiques était une nouvelle fois ciblé. De nouvelles pannes de courant en ont résulté. Parmi les missiles lancés par la Russie, on compte 2 missiles hypersoniques Zircon interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne. L'attaque russe se poursuit ce matin et elle intervient alors que les discussions tripartites initialement prévues entre Kiev, Moscou et Washington à Genève se sont converties en rencontres bilatérales entre délégations ukrainiennes et américaines aujourd'hui. Le président Volodymyr Zelensky affirme qu'une rencontre tripartite aura bien lieu en mars. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et à noter que ce matin, la Russie a déclaré par ailleurs avoir remis 1 millier de dépouilles de soldats ukrainiens à Kiev.
Donald Trump et son administration préoccupés encore et toujours par l'affaire Jeffrey Epstein.
Ces dernières semaines et ces derniers mois, près de 3 millions de documents ont été rendus publics concernant cet ancien financier et criminel sexuel mort en prison en 2019. Mais des médias américains et des élus démocrates accusent le ministère de la Justice d'avoir caché des documents concernant Donald Trump, un témoignage d'une femme qui l'accuse d'agression sexuelle quand elle était mineure. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour.
Le gouvernement s'est finalement engagé hier à réexaminer les documents.
Et si des fichiers ont été mal classés, c'est l'expression utilisée, ils seront bien sûr publiés, a écrit le ministère de la Justice dans un communiqué. Avant cela, il assurait qu'aucun fichier n'avait été ni caché ni supprimé, sauf des doublons ou des documents que la loi interdit de publier pour protéger l'anonymat et la dignité des victimes, par exemple, ou parce qu'il concerne une enquête fédérale qui serait toujours en cours. La radio publique NPR et le quotidien le New York Times ont révélé ces derniers jours que dans le dossier, il existait au départ plusieurs notes du FBI, des résumés du témoignage d'une femme entendue en 2019. Elle expliquait alors avoir été agressée sexuellement par Donald Trump quand elle avait 13 ans et aussi par Jeffrey Epstein. Seule une de ces notes qui ne mentionne pas Donald Trump a finalement été rendue publique. L'opposition démocrate à la Chambre des représentants dénonce, je cite, « la plus grande opération de dissimulation du gouvernement dans l'histoire moderne ». Donald Trump, lui, a démenti les accusations de violence sexuelle contre lui. Libye. Le ministère de la Justice parlait ce mardi encore d'allégations fausses et infondées contre le président.
Les précisions de Justine Fontaine du service international de RFI a noté que le patron du forum de Davos a annoncé sa démission ce matin, alors qu'il fait l'objet d'une enquête interne sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.
On reste sur le continent américain. Cuba dénonce ce qu'il qualifie de tentative d'infiltration à des fins terroristes après avoir abattu aux abords de l'île 4 occupants d'une vedette immatriculée en Floride.
À la suite de cette tentative d'infiltration par la mer d'un groupe armé venant des États-Unis, il y aurait aussi 6 blessés dans un contexte marqué par des tensions croissantes avec les Américains. Une enquête a été ouverte par le ministère cubain de l'Intérieur pour déterminer plus précisément les faits qui se sont déroulés sur la côte nord de l'île Magali Arroyas.
Après des échanges de tirs entre le bateau immatriculé en Floride et les gardes-côtes cubains dans les eaux territoriales de l'île, l'embarcation a fini par être neutralisée. À son bord, 10 personnes armées qui, selon les autorités cubaines, ont déclaré avoir l'intention de procéder à une infiltration à des fins terroristes. Dans son communiqué, le ministère de l'Intérieur cubain précise que tous les responsables sont des Cubains résidant aux États-Unis et que la plupart d'entre eux ont des antécédents connus d'activités violentes. Parmi les 4 personnes décédées, les autorités ont identifié Michel Ortega Casanova, un combattant tombé dans l'accomplissement de son devoir sacré. C'est ainsi que le dépeignent des organisations anticastristes qui ont appelé à lui rendre hommage. Côté américain, une enquête a été ouverte en Floride. Le secrétaire d'État Marco Rubio a lui affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une opération des États-Unis. Cette attaque intervient alors que les relations entre les deux pays sont tendues depuis la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les forces américaines début janvier. Capture à la suite de laquelle Washington avait bloqué quasiment toutes les exportations de pétrole à destination de Cuba.
Les précisions de Magali Arouaïs du service international de RFI.
RFI à Paris, 89 FM.
C'est la pire année de l'histoire que vient de vivre le constructeur automobile Stellantis.
Le groupe italo-franco-américain aux 14 marques a annoncé une perte nette colossale de plus de 22 milliards d'euros en 2025. Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour.
Cela s'explique par un contexte défavorable pour l'électrique et un virage stratégique pour la marque difficile à négocier.
Oui, il a fallu rectifier le tir car les voitures électriques n'attirent pas beaucoup les consommateurs et surtout la politique de Donald Trump a effectué un virage à 180 degrés sur la question. Donc Stellantis s'adapte et propose dans son catalogue plus de voitures hybrides et thermiques. C'est aussi le retour contre toute attente des voitures diesel. Stellantis a aussi pâti d'une politique de prix élevée sous le règne de l'ancien directeur général, Carlos Tavares. Donc il a fallu repenser la politique de prix. Tous ces recentrages sont très coûteux pour Stellantis et touchent en particulier les marques européennes qui doivent faire face à d'autres difficultés. Julien Bernard, maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux.
Il y a quand même des inquiétudes très lourdes, moins en Amérique du Nord peut-être qu'en Europe, hein, où on sent bien que les difficultés ne sont pas toutes derrière Stellantis, hein, puisqu'on a eu des campagnes massives de rappel à cause des airbags, on a eu ensuite des gros problèmes avec les moteurs d'Hypertech, hein, et tout ceci, ça a quand même conduit à ce que les clients à qui on proposait tous ces produits-là très chers se détournent des marques en question, hein, et les parts de marché perdues, elles seront à reconquérir et ça ne se pourra pas se faire sans dépenser beaucoup d'argent et sans renoncer par conséquent à une partie des profits mérifiques qu'ont été ceux de Stellantis.
Et les effets se font déjà sentir sur l'emploi. Une dizaine d'usines Stellantis sont déjà régulièrement à l'arrêt en Europe.
Les précisions d'Anne Verdaguer du service économie de RFI. Le chancelier allemand appelle Pékin et Berlin à surmonter ensemble les défis commerciaux. Friedrich Merz et Xi Jinping ont affiché leur volonté commune de faire front face aux droits de douane et revirements diplomatiques du président américain Donald Trump, tandis que le géant asiatique et ses entreprises sont de plus en plus perçus comme des sérieux rivaux par le monde industriel allemand. Et puis Anne, on connaît le nom du président du jury du 79e festival de Cannes, c'est le cinéaste sud-coréen Park Chan-wook. C'est la première fois qu'un ou une coréenne occupe cette fonction après deux présidentes dont la française Juliette Binoche en 2024. Thierry Frémaux, le délégué général du festival, a choisi un réalisateur âgé de 62 ans dont la réputation n'est plus à faire. Son œuvre spectaculaire et baroque qui compte 12 longs métrages a contribué à imposer la Corée du Sud sur la carte du monde cinéphilique. Sophie Torlotin.
C'est le Festival de Cannes qui, en 2004, braque les projecteurs du monde entier sur Park Chan-wook. Son troisième long métrage, Old Boy, séduit autant qu'il sidère les festivaliers avec son cocktail d'ultra-violence, de dénonciation des inégalités sociales et de motifs de tragédie grecque. On lui prédisait la Palme d'Or, mais le film reçoit le Grand Prix du jury et désigne le Sud-Coréen comme un réalisateur à suivre. Park Chan-wook foulera trois fois encore le tapis rouge de Cannes en compétition avec le film de vampire Thirst, Ceci est mon sang, prix du jury en 2009, Mademoiselle en 2016 et Decision to Live, prix de la mise en scène en 2022. Il confie sa joie de retourner en mai sur la croisette avec un nouveau rôle, en cette époque de haine et de division, écrit-il dans un communiqué. Je crois que le simple fait de se rassembler dans une salle de cinéma pour regarder un film en même temps permet de créer de la solidarité émouvante et universelle.
Les explications de Sophie Torlotin. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Et on continue avec vous, Anne Cantner, pour RFI Midi.
Journal de Juliette Pietraszewski. Il est midi et 40 ans universel. L'heure de faire le point sur l'actualité sportive. Bonjour Esteban Mirales.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On commence par parler football et Ligue des Champions. Le PSG est toujours en course pour défendre son titre.
Le club de la capitale a très péniblement remporté son barrage pour les huitièmes de finale face à Monaco. 3-2, c'était le score à l'aller en principauté. 2-2 hier soir au Parc des Princes. Paris a marqué deux fois grâce au capitaine Marquinhos puis au géorgien Kvaratskhelia. Deux buts dans la foulée du carton rouge reçu par le monégasque Mamadou Koulibaly en début de deuxième période, alors que les visiteurs menaient 1-0. Anniversaire amer pour l'auteur justement de l'ouverture du score, le milieu offensif Magnès Akinouche qui fêtait ses 24 ans.
Nya semye kwesi Frankie, nya semye. Soul Connection, la black music des années 60.